Chapitre 11. Jane regagna le motel de Tarzana en repensant aux événements de la soirée. Elle n'avait pas pu laisser d'empreintes puisqu'elle portait des gants. Elle avait remarqué le clavier d'un système d'alarme près de la porte, mais pas de caméra. Les 5 balles qu'elle avait tirées feraient forcément l'objet d'un examen balistique. Elle allait devoir se débarrasser de son arme, mais pas avant d'en avoir déniché une autre. Elle acheta des glaçons et une canette de coca au distributeur avant de regagner sa chambre. Elle s'y enferma et entreprit de démonter son pistolet. Tout en s'activant, elle repensa au fils de Richard et Bernice Branwick, alias Jimmy Radburn. Elle n'avait pas eu le choix à partir du moment où il lui avait lancé son stylo et sa chaise à la figure après avoir ameuté le géant. Elle avait eu l'occasion d'enquêter sur des tueurs en série à 10 reprises par le passé. 9 des coupables avaient été identifiés et 5 d'entre eux arrêtés sans effusion de sang. La 6e fois, l'un de ses collègues avait abattu l'intéressé, un assassin de petit garçon. Le 7e était J.J. Crutchfield, le collectionneur Dieu, que Jane avait blessé à la jambe. La fois suivante, dans une ferme isolée où un agent du bureau avait trouvé la mort, elle s'était retrouvée face à 2 violeurs sociopathes qu'elle avait tués sans regret. Robert Branwick était donc sa 3e victime. C'était un criminel cupide et assoiffé de pouvoir, bien sûr, mais aussi un être humain aimé de ses parents qui lui étaient reconnaissants d'avoir financé leur retraite anticipée, sans se douter de la façon dont il avait fait fortune. Ce n'était pas sa faute s'il était répugnant physiquement. Il n'était pas non plus le seul mec à se croire irrésistible aux yeux des femmes en affectant de se prendre pour Casanova. Jane n'avait pas de remords. Elle avait agi en état de légitime défense, mais elle avait besoin de s'en persuader si elle ne voulait pas perdre son humanité. La police et l'armée constituaient 2 mondes bien différents. On tue aussi à la guerre, mais on voit rarement le visage de l'ennemi. Même dans une lutte au corps à corps, on ne connaît pas l'identité de son adversaire. Enquêter longuement sur un individu avant de l'éliminer, même lorsqu'il s'agit de sauver des vies innocentes ou de se défendre, nécessite un sens aigu du devoir. Sans douter de la légitimité de son geste, elle se demandait où elle avait trouvé la force de l'accomplir. Robert Branwick avait été élevé par des parents honnêtes, alors que le père de Jane était un assassin. La nature comptait-elle plus que l'apprentissage? Lorsqu'elle prenait le temps d'y réfléchir, elle se trouvait 2 raisons d'être entrée dans la police au prix de sa carrière musicale. D'une part, il s'agissait pour elle de rejeter ce père célèbre, de l'autre, de se pardonner sa propre lâcheté et son silence à la suite du suicide supposé de sa mère. Parce qu'elle se sentait plus proche de Cain que d'Abel, elle avait choisi sa carrière de façon à légitimer la violence qu'elle portait en elle. Les rares fois où elle s'en était ouverte à Nick, il lui avait dit « C'est vrai, la vie est compliquée, mais elle ne serait pas drôle s'il n'y avait pas des hauts et des bas. C'est également vrai qu'on ne se connaît jamais vraiment soi-même, mais c'est ce qui nous rend intéressants aux yeux d'autrui. » Sans cet élément de surprise, la vie ne vaudrait pas d'être vécue. Sa tâche achevée, elle rangea ses outils, préleva 5 balles dans son stock de munitions et les glissa dans le chargeur à moitié vide. Elle se servit un coca-vodka avec des glaçons, puis elle s'allongea sur le lit et alluma la télé. 2 cinglés avaient attaqué plusieurs personnes à la machette et au couteau dans un restaurant de Miami. Bilan, 5 blessés et 3 morts. Ils auraient fait davantage de victimes si un client du restaurant, un flic en civil armé, ne les avait pas abattus. Jane zappa d'une chaîne à l'autre, à la recherche d'un vieux film en noir et blanc réalisé à une époque où le monde était encore innocent. De préférence une comédie musicale, avec une histoire d'amour bien ringarde et un minimum d'humour, loin de toute ironie cynique. En vain. Elle se rabattit sur le radio-réveil et finit par dégoter une station qui osait programmer des tubes des années 50. Elle reconnut avec délice les premières mesures de Twilight Time des Platters. Un oreiller sur les genoux, elle défroissa la page de carnet sur laquelle Jimmy Bob avait rédigé ses derniers mots. Entre 2 gorgées de coca-vodka, elle étudia les noms qui s'y trouvaient. Aspasie et William Sterling Overton. Elle repensa à la promesse du site, à ces beautés soumises capables de satisfaire tous les désirs de clients à qui l'on garantissait un silence définitif, et revit dans sa tête les images de ses souris embrigadées. Elle fut parcourue d'un frisson qui ne devait rien au glaçon dans son verre. David James Michael, le milliardaire, serait d'un abord délicat. Berthold Chenek, sans doute plus vulnérable, serait également difficile à approcher. Il ne lui restait plus qu'à effectuer des recherches sur William Sterling Overton. À ce stade, c'était probablement la cible la plus facile des trois. Pourvu que l'avocat accepte de lui révéler l'emplacement d'Aspasie, en espérant ne pas être obligé de le tuer. Avant même de s'être renseignée sur son compte, elle le soupçonnait de ne lui laisser aucun remords si elle se voyait contrainte de l'éliminer.